Le paysan partit raconter son histoire à dormir debout à l'évêque. Sumaraga, cracha Dorothy, qui manqua de suffoquer. Voilà une jeune personne bien informée, songeait Juan Diego, ébahi. Elle connaît même le nom de l'évêque sceptique. Sa connaissance manifeste des détails de l'histoire le dissuada de poursuivre. Il s'arrêta avant d'avoir abordé la question du miracle. Soit qu'il fût impressionné par l'érudition de Dorothy sur un sujet qui l'obsédait depuis longtemps, soit que, et ce n'était pas trop tôt, il fût distrait par la turlute. Et que fit cet évêque incrédule? Il voulait tester Dorothy. Celle-ci ne le déçut pas, sinon qu'elle cessa de le sucer, expulsant son sexe de sa bouche avec un plop qui le fit tressaillir une fois de plus. Ce connard d'évêque a demandé au paysan de prouver qu'il s'agissait de la Vierge, comme si c'était à lui de le faire, répondit-elle avec mépris. Elle remonta sur son corps et glissa son pénis entre ses seins. Alors le pauvre paysan est retourné voir la Vierge et a imploré un signe qui puisse confirmer ses dires. « Comme si c'était à elle de le faire, putain !» reprit Dorothy qui se mit à l'embrasser dans le cou et à grignoter le lobe de ses oreilles. C'est alors que tout devint confus. Nos deux amis connaissaient l'histoire l'un comme l'autre et ils étaient pressés d'en achever le récit. La Vierge dit à Juan Diego le paysan d'aller cueillir des fleurs. Qu'il y en ait eu en décembre peut laisser perplexe, et que le paysan ait trouvé des roses de Castille encore inconnues au Mexique intriguera davantage. Mais il s'agit d'une histoire de miracle, et le temps que Dorothy ou Juan Diego, le romancier, en arrive à la partie du récit où le paysan montrait à l'évêque les fleurs que la Vierge avait déposées dans son humble tunique, Dorothy avait elle aussi fait apparaître une petite merveille. Cette jeune femme pleine de ressources avait en effet sorti un préservatif qu'elle avait enfilé sur le sexe de Juan Diego pendant leur dialogue. Elle pouvait faire plusieurs choses à la fois, qualité qu'il avait déjà observée et qu'il admirait beaucoup chez les jeunes croisés au cours de sa carrière d'enseignant. La rareté de ses contacts sexuels ne lui avait pas permis de rencontrer une femme qui ait des préservatifs sur elle et qui les lui enfile avec maestria, ni qui prenne le dessus de la situation avec une autorité aussi familière. Son inexpérience en matière de femme, surtout de femme dotée de la science érotique et du comportement offensif de Dorothy, le laissait pantois. Il restait sans voix, incapable de finir l'histoire de Guadalupe, à savoir ce qui était arrivé au pauvre paysan quand il avait présenté sa tunique pleine de roses à l'évêque Sumaraga. Tout en s'asseyant solidement sur le sexe de Juan Diego, ses seins pointés en avant lui frôlaient le visage. Dorothy reprit le fil du récit. Lorsque les fleurs étaient tombées de la tunique, on avait pu voir à leur place, imprimée sur l'étoffe grossière, l'image de la Vierge de Guadalupe, mains jointes en prière, paupières chastement baissées. Ce qui a dû impressionner l'évêque, ce n'est pas tant le fait que l'effigie de la Vierge se soit imprimée sur la tunique du paysan, poursuivit la jeune femme sans cesser d'aller et venir sur Juan Diego. C'est plutôt la Vierge elle-même. « Comment ça ?» demanda Juan Diego tout pantelant. « Son attitude !» haleta Dorothy. Ses seins gigotaient au-dessus de lui. Il retenait son souffle à la vue du filet de transpiration qui coulait au creux de leur sillon. « Sa posture, » reprit-elle, « elle tenait ses mains de telle manière qu'on ne voyait même pas ses seins, si elle en avait. Elle gardait les yeux baissés, et pourtant, on y apercevait une lueur maléfique. « Dans l'iris ?»« Non, pas dans l'iris, dans la pupille !» souffla la jeune femme. Au centre, il y avait une lueur effrayante. Exactement, grogna Juan Diego. Il l'avait toujours pensé, mais il n'avait jamais encore croisé quelqu'un qui soit de son avis. Or, Guadalupe était différente. Ce n'était pas seulement une question de couleur de peau, poursuivit-il courageusement, car il avait de plus en plus de mal à respirer pendant que Dorothy rebondissait sur lui. Elle parlait Nahuatl, la langue de la région. Elle était indienne et non pas espagnole. Si c'était une vierge, alors c'était une vierge aztèque. Cet évêque de merde, il en avait rien à cirer. La posture de Guadalupe était si chaste, putain, si virginale, s'écria la jeune femme qui décidément ne ménageait pas sa peine. Si, s'écria Juan Diego, quel manipulateur ces catholiques. Il en aurait dit davantage, mais Dorothy l'attrapa aux épaules avec une force surnaturelle. Elle le fit basculer puis rouler sur elle. Pourtant, à l'instant où elle était encore sur lui et où il la regardait dans les yeux, il avait eu le temps de saisir son expression. Qu'avait dit Loupé, l'extra-lucide, autant jadis? T'as peut-être du souci à te faire, mais c'est plutôt du côté de Guadalupe. On dirait qu'elle se penche sur ton cas, qu'elle n'a pas encore décidé. N'était-ce pas exactement l'expression de Dorothy dans la demi-seconde où elle lui avait appliqué une prise de lutte pour le faire passer sur elle? À peine entrevu, ce regard l'avait effrayé. Or voilà qu'à présent, sous lui, Dorothy lui faisait l'effet d'une possédée. Sa tête roulait, ses hanches s'arc-boutaient contre lui, avec une telle force qu'il s'accrochait à elle comme un homme au bord de l'abîme. Quel abîme! Le lit était large, il ne risquait guère d'en tomber. Il crut tout d'abord que l'imminence de l'orgasme avait entraîné chez lui un phénomène d'hyperacousie, et qu'il entendait la radio, pourtant en sourdine. Cette langue inconnue le troublait dans son étrange familiarité. On ne parlait pas mandarin à Hong Kong. Cependant, cette voix de femme ne parlait pas chinois, et moins encore en sourdine. Peut-être que dans la violence de leurs ébats, la main de Dorothy, ou son bras, ou sa jambe qui battait l'air, avait frappé le boîtier de commande sur la table de nuit, car la voix hurlait carrément. C'est alors qu'il comprit que cette voix n'était autre que celle de Dorothy. Ce n'était pas le son de la radio, mais l'orgasme de Dorothy qui était amplifié, au-delà de toute attente, au-delà de toute raison. Dans l'esprit de Juan Diego, deux idées convergèrent désagréablement. Alors qu'il avait conscience d'être en train de jouir comme jamais, s'imposait à lui la nécessité d'absorber deux bêta-bloquants dans les plus brefs délais. Mais cette idée brute allait de pair avec une autre. La langue que parlait la jeune femme, il l'avait entendue pour la dernière fois dans son enfance. Sur le point de jouir, Dorothy s'exprimait bel et bien en nahuatl, la langue même de Notre-Dame de Guadalupe, celle des Aztèques. Le nahuatl appartenait à un groupe linguistique amérindien, parlé dans le centre et le sud du Mexique. Pourquoi Dorothy le parlait-elle? Comment le connaissait-elle? « Tu ne réponds pas au téléphone ?» lui demandait calmement la jeune femme en anglais. Elle se cambra, main derrière la tête pour lui faciliter l'accès à l'appareil posé sur la table de nuit. Peut-être à cause de la pénombre, sa peau parut à Juan Diego plus mate qu'en réalité, à moins que ce détail ne lui ait échappé jusque-là. Il dut s'étirer pour atteindre l'appareil. Sa poitrine puis son ventre touchèrent les seins de Dorothy. « C'est ma mère, tu sais ?» lui dit-elle d'un air languide. « Comme je la connais, elle a dû appeler ma chambre d'abord. » « Trois bêta-bloquants peut-être, » songea Juan Diego avant de susurrer « Allô ?» d'une petite voix. « Vous devez avoir les tympans qui vibrent, » lui dit Myriam. « Je m'étonne que vous ayez entendu le téléphone sonner. »« Je vous entends très bien, » répondit Juan Diego, plus fort qu'il ne l'aurait cru. « Ces tympans vibraient en effet. » On a dû en profiter dans tout l'étage, peut-être même dans tout l'hôtel. Si ma fille a recouvré l'usage de la parole, pourriez-vous me la passer? Sinon, je vous laisse le message et vous lui transmettrez quand elle sera revenue à elle. Revenue à elle? Quelle formule ridicule! D'où aurait-elle dû revenir? N'était-elle pas couchée avec lui? Il lui tendit le combiné. Quelle surprise, maman! Déclara-t-elle sobrement. Si Juan Diego n'entendait pas ce que Myriam disait à sa fille, il se rendait compte que celle-ci répondait du bout des lèvres. Il envisagea de mettre à profit cet échange pour retirer discrètement le préservatif. Mais lorsqu'il roula sur la jeune femme pour se retrouver sur le flanc, dos à elle, il découvrit avec étonnement que celui-ci avait déjà été enlevé. Question de génération, une fois de plus. Ah, ces jeunes. Non seulement ils savent faire surgir une capote comme par enchantement, mais ils la font disparaître de même. Où l'a-t-elle mise? Lorsqu'il se retourna vers Dorothy, elle l'étreignit d'un bras puissant et le serra contre ses seins. Le sachet en papier d'alu était sur la table de nuit, où il ne l'avait pas repéré, mais le préservatif avait disparu. Lui qui s'était défini comme un archiviste du détail, dans son travail romanesque,